vous êtes sur le podcast de la Zone payante, Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Gadorette. On parle de NFL, on a des questions des auditeurs pour cette semaine, plusieurs questions intéressantes. Je commence avec une première question, un partisan des Bears très inquiet, Jacques-Alexis, qui pose la question « Que faut-il faire pour rendre les Bears de Chicago compétitifs? » Et là, quand il entend « compétitif », il pense « Super Bowl », pas genre finir 9-8 puis passer par la porte d'en arrière. Puis combien de temps une reconstruction prend? Puis l'autre question qu'il pose, tu sais, des fois quand t'es un partisan, t'es déprimé. Là, tu dis, est-ce qu'on liquide tout, là? Même Justin Fields, puis on repart à 9?
Non. Non, pas Justin Fields. Tu peux pas, après une saison, dynamiter complètement l'équipe non plus. Justin Fields, moi, je le laisse en place, puis au contraire, j'essaie de bâtir autour de lui. Il y a quand même des bons éléments en place à Chicago. Là. C'est loin d'être une mauvaise défensive. On parle pas des Bears de 85, mais quand même, il y a de quoi à faire avec ça. Du côté de la ligne à l'attaque, il y a beaucoup de travail, mais on a tendance à oublier que les Bears, en première ronde du dernier repêchage, ont repêché Tevin Jenkins, qui était supposé être un bloqueur extrêmement physique, très mean. Donc ça va aider. Il a pas joué de l'année, il est blessé. C'est une addition là qui pourrait quand même donner un gros coup de pouce à l'attaque. Puis Fields, si tu veux qu'il fonctionne, donne-lui des armes. Je sais pas ce qui va arriver avec Allen Robinson, le receveur, mais ça fait quand même quelques années qu'il semble malheureux à Chicago. J'ai pas l'impression qu'il va revenir. Va falloir s'assurer de donner des armes à Justin Fields. Il y a un repêchage pour ça, de très bons receveurs qui vont être disponibles cette année. Je dirais que pour que les Bears soient de nouveau très compétitifs avec Fields, ça peut aller vite. Le premier élément à Chicago, c'est de mettre le coach dehors puis de trouver quelqu'un qui peut vraiment bien fitter du point de vue philosophique, amener des jeux avec lesquels Fields est confortable là, pour l'amener tranquillement là, à s'améliorer. Donnons 2 ans encore aux Bears là, avant de tout dynamiter.
Ouais. J'abonde un petit peu dans le cas de Stéphane. La ligne à l'attaque, pour moi, c'est la clé de cette reconstruction-là, si tu veux. Faut que tu revendes ça assez rapidement. Si je regarde ce que les Browns ont fait, qui ont, selon moi, une des très bonnes lignes à l'attaque, ça a été un mélange de joueurs autonomes et de joueurs au repêchage. Ben, c'est un peu vers ça, je pense, que les Bears doivent viser. Faut aussi penser tranquillement à peut-être remplacer des partie un peu plus vieillissante en défensive. Là, je pense à Hakeem Hicks, Khalil Mack. Ça commence à être un petit peu plus vieux. Là, et ils sont encore performants. Est-ce que tu veux les utiliser comme monnaie d'échange? Peut-être. Écoute, c'est pas hors de question. Moi, je les garderais. Mais il faut que tu penses à aussi les remplacer là, via le repêchage. Ça va être un point de vue majeur. Okay. Puis un peu comme Stéphane a dit, il faut que tu donnes un peu d'outils là, à Fields pour travailler.
Parlons-en du repêchage. Là, certaines équipes sont déjà éliminées. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qui s'en vient chez les jeunes. On pense justement aux Bears, on pense aux partisans des Lions de Détroit, des Texans de Houston, et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe dans les espoirs pour le draft? Là, les gens qui suivent pas beaucoup l'NCAA, mais qui regardent du coin de l'œil, là, c'est qui devrait surveiller pour...
Il y a plusieurs joueurs, évidemment. Là, au niveau des Edge, il y a 2 joueurs là, qui sortent du lot. Il y a Kayvon Thibodeau, qui est un prototype classique là, de joueur ultra-athlétique sur le coin de ligne, un peu style Chase Young, Miles Garrett, des longs bras, une shape là, 6-5, athlétique, là, 2-50. Le problème avec Thibodeau, il a souvent été blessé NCAA, il a raté quand même des matchs, puis il y en a qui pensent que son jeu au sol son jeu contre le jeu au sol et laisse à désirer. Moi, je trouve que c'est vraiment amélioré dans la dernière année à ce niveau-là, mais ça reste un excellent talent.
C'est Olivier Tremblay qui nous pose la question, il demande aussi une comparaison avec un joueur de la NFL.
Ben, écoute, je te l'ai donné, là, c'est un Chase Young, Miles Garrett. Là, c'est dans, ce style, dans ce style-là, Kevin Thibodeau, là, à l'Université d'Oregon. Il y a Aiden Hutchinson aussi, qui est un joueur de Edge aussi là, pour l'Université Michigan. Là, il y a beaucoup, beaucoup de hype autour de lui parce qu'il a connu un excellent match face à Ohio State.
C'était extraordinaire, honnêtement.
Ouais, il a renversé tout sur son passage. La grande différence...
Il jouait contre un bloqueur, Nicolas Petitfrère d'Ohio State, qui est considéré comme un excellent bloqueur.
Il va se ramasser dans la NFL, effectivement.
C'est ça, il n'a pas été contre lui tout le match, mais en bonne partie. Puis honnêtement, il a dominé complètement. Là. 3 sacs, 15 pressions. 15 pressions! C'est tout un match, là, honnêtement, de sa part.
C'est pas le même type de joueur que Thibodeau, je dirais. Là. C'est plus un style peut-être un peu TJ Watt.
Martin Canuel qui posait la question, qui lui est un partisan des Lions de Détroit, puis là il est en train de fouiller un peu pour voir qui sera le premier choix repêchage qui va sûrement atterrir dans ses bras. Puis c'est un peu à ça. Il dit Hutchinson, c'est un genre de JJ Watt. Là. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, un genre de JJ Watt. Puis pour le moteur.
TJ Watt, selon moi.
TJ Watt. C'est ça, pas JJ, excuse-moi.
Pas JJ, ouais.
TJ, puis. C'est un genre de joueur, là, je comprends que premier overall, la comparaison va sembler boiteuse, mais moi, il y a un gars que j'ai toujours aimé dans la NFL pour le moteur, là, qui démontre jeu après jeu après jeu, puis c'est Ryan Kerrigan. Ça me fait un peu penser à ça, tu sais, qu'il peut être efficace contre le sol, il peut amener de la pression aussi. Un talent supérieur à Kerrigan, là, ça c'est sûr, du côté d'Hutchinson. Mais je parle en termes d'effort à chaque jeu, là, vraiment. Moi, ce que j'ai vu contre Ohio State, ça m'a renversé. Puis tu sais, juste mentionner rapidement d'autres noms là pour la question du repêchage. Ouais. Comme je le disais, ça va être une grosse cuvée de receveurs. Tu sais, les deux de Ohio State en partant, Garrett Wilson, Chris Olave, c'est des choix de première ronde. Drake London, un gros bonhomme de 6 pieds 5 du côté de USC. Ça a été pas mal le seul highlight de leur saison, USC. Là, il s'est pas passé grand-chose là cette année, très décevant. Ça, c'est des gars qui vont être à surveiller pour le premier tour. Les QB, c'était d'une année là où t'as le deuxième, troisième choix, puis tu dis on va aller chercher notre homme. C'est pas la meilleure année. Il y a des prospects intrigants. Je pense à Matt Corral de Ole Miss.
Mais dis Stéphane, là, moi je connais pas ça comme vous autres, là, mais chaque année on dit ça.
T'as raison.
Puis ça descend. Là, il y a un carrière, deux carrières, le bang, 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 ça finit 3-4, puis ils sont.
T'as raison.
Je te dis, Jean-Nic, que je trouve qu'on surévalue la position de carrière aussi. Si t'as pas une QV exceptionnelle, je comprends pas pourquoi les gars ils sortent premier overall ou top 3, tu sais, ou top 5. Des fois, je trouve que c'est too much. C'en est une année comme ça. C'est pas une énorme année de carrière. Matt Corral, c'est un bon carrière. Il y a de quoi à faire avec, mais repêche-le pas trop tôt, là. C'est pas un top 10 pour moi, loin de là.
C'est ça la différence. C'est que si tu le repêches troisième overall, là, tu prends tout un guess. S'il est rendu, je sais pas, moi, au 25e rang, puis tu as besoin d'un quart.
Tu le repêches, j'ai pas de problème.
Tu sais, go. C'est la même chose. Il y a des cas intrigants cette année. Tu sais, un Malik Willis de Liberty, tu sais, c'est un petit programme. Tu sais pas trop qu'est-ce que ça va donner chez les pros, mais c'est un gars extrêmement athlétique. Là. C'est le prochain corps arrière qui peut être un grand athlète dans la NFL. Un bras canon, mais est-ce qu'il va s'adapter aux rigueurs du football professionnel? T'sais, c'est la grande. Il y a beaucoup de questions finalement autour des corps arrière cette année, mais il y a de très bons joueurs défensifs. On en a nommé quelques-uns, mais il y en a d'autres. Carl Hamilton.
On a juste deux questions répondues, les gars. On va essayer d'accélérer.
Juste nommer deux joueurs qu'il faut retenir. Carl Hamilton, maraudeur à l'Université de Notre-Dame, il est incroyable. Il a le nez sur le ballon. Tout le temps, il a un range fou comme maraudeur, puis c'est un gros bonhomme. 6 pieds 4, 220 livres comme maraudeur, il va te couvrir du terrain.
Il va jouer hybride, là, lui, le secondaire aussi, puis tu sais, ils vont le promener dans la défensive.
Puis l'autre joueur qui est vraiment intriguant, c'est Tyler Linderbaum. C'est un centre offensif. C'est rare qu'on parle d'un centre offensif dans la première ronde. Lui, il va sortir. C'est l'Université Iowa. Il est hallucinant, les gars. S'il tombe dans un schéma de zone de au jeu au sol, de blocage de zone, il va être incroyable dans la NFL.
Une poule?
Incroyable. Une poule.
Mais,
écoute, il joue au championnat du Big Ten samedi face à Michigan. Alors, regardez-le, le centre offensif Tyler Linderbaum, il est incroyable.
OK, on accélère un peu si on veut prendre d'autres questions.
Yes.
J.S. Labrec nous dit, les pénalités pour taunting, pour ou contre, y a-t-il de l'excès?
Ah, écoute, on en a déjà parlé dans le podcast. Moi, je trouve que oui, il y en a un peu. Mais je trouve pas que c'est nécessairement abusif. Stéphane avait parlé que ça serait un peu moins pire dans les semaines subséquentes en début de saison. Je trouve que ça commence à se tasser un petit peu. Donc c'est ça, mais il faut laisser jouer les joueurs.
Il y a encore trop d'exemples, par contre, de pénalités de taunting qui sont appelées dans des situations de match très critiques qui ne devraient pas influencer autant le déroulement d'un match. Moi, c'est plus là que j'ai un bug.
Est-ce que Hugo Bellin nous dit quels QB seront susceptibles de changer de camp l'an prochain?
Ben, tu sais, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Russell Wilson, je suis de plus en plus convaincu que la réflexion va être intense là, parce que les Seahawks sont rendus à 3-8. Le club va nulle part. Je pense que lui, autant que l'équipe, vont peut-être vouloir un renouveau. Aaron Rodgers, la situation demeure à surveiller avec les Packers. Tu sais, ça a été clair, ça a été public. On n'est plus au stade de rumeur dans son cas. C'est carrément lui qui a le dernier mot à la fin de l'année. Est-ce que j'aime la direction des Packers? Est-ce qu'il m'écoute plus qu'avant? Est-ce que je suis dans les discussions pour le personnel? S'il y a ses réponses positives, il va rester. Sinon, ciao, bye. Jimmy Garoppolo va être d'un nom à surveiller. Est-ce que c'est encore considéré comme un partant sûr? Pas convaincu. Puis là, t'as d'autres gars après ça. Tu sais, Jameis Winston est sur un contrat d'un an. Il y a toujours la situation de Tua qui était surveillée avec les Dolphins. Est-ce qu'on va être agressif pour aller chercher Deshaun Watson? J'ai bien l'impression que oui, peu importe ce que Tua va faire d'ici à la fin de l'année. Fait que c'est pas mal les principaux, je dirais, à surveiller.
Dans les ceux qu'on peut, je pense, comme surprise, Derek Carr, il doit être tanné de jouer avec les Raiders, les gars. Là.
Ah, chaque année, il sort d'un rumeur, lui.
Tu sais, fait que selon moi, lui, il pourrait changer d'adresse. Faut pas oublier que c'est la fin de Big Ben aussi. Là. Je peux pas croire que les Steelers vont ramener Big Ben. Donc, les Steelers vont être à la recherche d'un carrière de franchise.
Jérôme Tremblay, si vous êtes DG de Miami avec les performances encourageantes de Tua Tagovailoa, bâtissez-vous avec lui ou vous y allez en ligne pour Watson? On vient d'en parler.
Ben écoute, si t'as une chance de mettre la main sur Watson, tu le fais. Tagovailoa, il est bon, il est correct pour l'instant. Tu peux bâtir dessus, mais c'est pas la qualité de Watson. C'est pas un top 3 carrière de la NFL. Ou du moins, je le vois pas top 3 dans les deux prochaines années. Watson y arrive, puis il est immédiatement dans le top 5 de la, comme carrière. Donc, si tu peux le faire, tu le fais.
Je répète juste la ligne que je dis tout le temps. Si tu peux le faire, tu le fais. Si toute sa situation légale est claire, exact, nette et précise. Parce que sinon, c'est de la grosse boîte. Je m'embarque pas là-dedans.
Mais ça sera pas le cas. En tout cas...
Moi, s'il y a les doutes qui planent par rapport à tout ce qui a pu se passer, là, j'ai des grosses réserves.
OK, dernière question. Gilles Côté nous demande, Cam Newton, est-il fini ou pas? Y a-t-il encore de quoi donner à un club?
Je pense qu'il était fini l'an passé.
Exact.
cette année, tu sais, c'est cool, c'est trippant, c'est noble, c'est beau de le revoir en Caroline, mais je pense que depuis deux semaines, toute cette histoire-là a dégonflé pas mal. Tu sais, ça a été cute. Mais c'est pas une solution.
Question quiz, on vient d'en parler. Derek Carr a 3414 verges en ce moment par les airs. Il manque 2000 verges pour battre le record de tous les temps du plus grand nombre de passes pour une saison. Qui détient ce record?
Ce serait Drew Brees, non?
C'est pas Drew Brees.
Ah!
Je suis pas sûr de comprendre la question.
Derek Carr manque 2000 verges pour battre le record de tous les temps pour le plus de verges dans une saison. Des records détenus par quel corps arrière? Mais c'est Peyton.
Peyton Manning.
Okay. Peyton ben
Manning
oui.
Avec 5400 verges. Il manque 2000 verges, Derek Carr, pour... c'est atteignable quand même avec un match de plus en plus.
Ouais, mais là, il y a beaucoup de records que ça va être bizarre, tu sais. Comme Derrick Henry, avant de se blesser, il s'enlignait pour battre le record du nombre de verges au sol dans une saison. Mais j'espère pour les records qui vont tomber en 16 matchs.
Ouais.
Tu sais, c'est quand même plus juste, je trouve, pour les détenteurs de records.
Ouais, mais je pense qu'ils vont quand même apparaître au livre des records parce qu'il y a eu des saisons de 14 matchs aussi, les records ont été battus.
Oui, ça mérite pas un astérisque, là, mais je veux juste dire, c'est plus cool si le record est battu dans le même nombre de matchs.
Pour sa saison, c'est-tu sa saison avec Denver?
Ouais, ça doit être l'année de 2013 avec 55 passes de tout feu.
Ouais, c'est ça, où c'était tout feu, tout flamme.
Je sais pas. Faudrait que je vérifie. OK, les gars, merci pour les questions. Puis on va inviter les gens à nous poser des questions à chaque semaine. On va prendre cette habitude-là de répondre aux questions des auditeurs, surtout que la fin de saison approche, puis il y a de plus en plus d'engouement pour la NFL. Fait que, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, nous écrire pour nous poser vos questions. Et là, après la pause, c'est la semaine 13 de la NFL, des gros matchs, entre autres les Bills contre les Pats, des matchs déterminants pour la suite de la saison. On fait nos prédictions après la pause, bougez pas.